100% Aiglon, Thomas Debono.
Il est 18h07, vous êtes sur France Bleu Azur dans 100% Aiglon, l'émission des supporters de l'OGC Nice. Le débrief du match de ce week-end, un match nul contre les Rémois 0-0. Maxime Bacquier est avec nous, salut Max.
Salut Thomas, bonsoir à tous.
Patrice Elberganti, salut Pat.
Salut Thomas, salut à tous.
Et Adil, notre supporter et arbitre le week-end, salut Arb.
Bonsoir tout le monde et encore super d'être là.
Eh bien, plaisir de te recevoir, c'est parti. Avant de commencer l'émission, Patrice Elberganti, je vous trouve chaque fois aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive?
Oh non.
Qu'est-ce qui vous arrive?
J'en ai marre de passer un dimanche comme ça, je te jure.
Il a fait la coupe de printemps déjà. Il a perdu des cheveux, mais c'est pas que sur l'occasion de Boga.
Ah, il est pas bien là.
Non, j'en ai marre de passer ce genre de dimanche. Ouais.
Non, mais ça sent.
Ah, ouais, ça m'énerve.
Tu vois plus le verre à moitié vide alors hier.
Ah, qu'on me parle pas. Qu'on me dise pas, on a pris un point. Voilà, non.
Les défaites encourageantes, ça n'existe pas. Les matchs nuls encourageants non plus, alors.
Voilà.
Désolé, là, je l'ai senti pas bien. Toi, Max, par contre, ça va, t'as le sourire. On sent que le champagne a coulé à flot ce week-end. Hein.
Écoute, moi, j'ai vu un bon match. En tout cas, une très bonne première mi-temps avec justement des Aiglons à nouveau déterminés, concentrés. Alors oui, il y a ces occasions, on va y revenir, mais... On avait surtout envie de revoir cet OGC Nice solide et solidaire, et c'est le cas. Je trouve que on a retrouvé ses valeurs. Dante en avait parlé avant le match. On est une équipe très moyenne quand on ne met pas ses valeurs sur le terrain. Là, on peut dire que aucun joueur ne s'est fait remarquer pour ce manque d'envie de détermination. En tout cas, c'est mon avis par rapport à la prestation d'ensemble. Après, oui, dans les détails, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais je dirais que c'est un point du coup frustrant mais rassurant pour la suite.
Un point qui nous permet de conserver cette cinquième place déjà, c'est pas trop mal au classement, parce que il faut relativiser un petit peu. Je suis sur les réseaux, donc on voit beaucoup de choses hein, passer des supporters, beaucoup de choses négatives. On est quand même cinquième du championnat. Enfin, c'est pas une place ridicule, a dit le cinquième.
Enfin, cinquième, après avoir été une bonne partie de la saison second et avoir rêvé de la Ligue des Champions, parce que je crois qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, on peut l'oublier, c'est très frustrant.
Mais alors toi, ton avis, t'es devant la télé hier, tu vois un bon point ou deux points de perdu?
Autant je me suis pas enflammé après Lens parce qu'on avait gagné grâce à des cadeaux. Autant hier, moi je pense qu'on a eu quand même une solidité défensive qui a été retrouvée. On a un état d'esprit qu'on a ressenti, ça se ressentait à la télévision. Et par contre, au niveau d'animation offensive et surtout de l'efficacité, enfin, j'essaie de retrouver dans ma mémoire, on va en reparler après, hein, mais un loupé aussi flagrant devant le but.
Ah ben moi, écoute, j'ai eu un flash ce matin, je me suis réveillé en me disant, mais c'est Saint-Maximin 2019 au parc. Ce centre fort devant le but et Saint-Maximin à un mètre de la cage qui arrive à trouver la barre transversale.
Je m'en rappelle.
Ouais. 2019, Parc des Princes, je crois que Nice menait 1-0. Centre d'Atal après un raid exceptionnel et Saint-Maximin qui est vraiment le but ouvert, plus de gardien, il frappe sur la barre. Et je me suis dit, beau gars, Saint-Maximin, même combat. Des joueurs un petit peu frissons comme ça où t'as l'impression qu'il va toujours se passer quelque chose et à la fin, au moment de faire le geste juste, ça manque quoi de... Concentration, Patrice, c'est ça le problème, parce que pour rappeler, occasion, hier, Boga, centre du côté droit, le ballon qui file devant tout le monde, et Boga, deuxième poteau, la cage est ouverte et il arrive à tirer à côté.
Alors, il faut garder, moi je vais garder quand même de la mesure, parce que tout le monde te dira, ouais, mais des occasions comme ça, il y a plein de joueurs qui les ont ratés. On est d'accord, ça arrive de rater des occasions comme ça, mais pas là. Pas à ce moment du match, pas à ce moment de la saison, pas un joueur comme lui, où on investit beaucoup d'argent, où il fait un match sur cinq, où il n'est pas déterminant, et quand il y a cette occasion-là, c'est une occasion qui peut te remettre dans la lumière, c'est le but qui est complètement ouvert, c'est l'application, l'implication, l'agressivité devant le but, être déterminé pour la mettre au fond, quoi. Et le geste qu'il fait, ben c'est pas le bon. C'est aller chercher second poteau pour peut-être se dire que moi je me suis mis dans ma tête plein de scénarios.
T'as été attaquant toi.
Ben oui.
C'est quoi le geste juste?
Je me suis mis dans ma tête plein de scénarios. C'est pour moi le geste juste, c'est plat du pied fort de là où vient le ballon. Tu vois, tac, il arrive là. Tu as le premier poteau qui est devant toi. Tu la mets le plus proche du poteau, fort au sol, et tu es sûr de marquer. Le gardien avant qu'il intervienne. Alors je me suis dit peut-être que lui, il a vu arriver le gardien. Il s'est dit, il va plonger. Si je frappe, je vais taper sur le goal. Donc je vais essayer de chercher le côté opposé. Ou alors il a complètement raté son geste. il a voulu frapper premier poteau, il a tapé sur la cheville, il est monté à droite, et il a raté le cadre. Mais je me demande encore une fois comment c'est possible de rater le cadre à cette distance-là, tu vois. Mais je sais que ça arrive. C'est des choses qui arrivent dans le football. C'est pas facile de marquer un but. Faut pas croire. Tant qu'il est pas au fond, il y a pas but. Mais le geste que fait Jérémy Boga, c'est pas le bon, quoi.
Mais si c'est Mbappé qui rate, on peut dire, c'est un accident. Là, le problème, c'est que Jérémy Boga, il en rate souvent, des occasions comme ça. On a l'impression que c'est un joueur qui, au moment de faire le bon geste, se déconcentre ou ne met pas, justement, ses bons ingrédients mentaux pour trouver le geste juste.
Ou n'est pas assez impliqué, peut-être.
L'efficacité que tu dois avoir, les objectifs que tu te fixes, l'envie que tu as que tu mets sur le terrain pour finaliser toutes tes actions, pas que celle-là, toutes tes actions. Voilà, le joueur que tu es, le joueur sur lequel on investit, où tu dois être déterminant tous les matchs, tu l'es pas. Et là, tu dois marquer. Tu dois nous donner ces 3 points, tu dois nous mettre mieux dans le championnat, mieux placé, et tu verras que ces points compteront à la fin. Ces points compteront.
Tu me l'as énervé, hein, ça y est. Hein.
Ça y est.
Ah ben là, tu me l'as énervé.
Non, mais c'est pas que ça. Alors, j'ai vu le match. J'ai vu un match agréable, je te dis franchement. J'ai vu un match intéressant des deux équipes, c'était sympa. Ça a joué, il y a eu de l'engagement, de l'agressivité, de l'intensité, tout ce que tu veux. Mais il a manqué encore une fois cette justesse technique offensive qu'on n'a pas depuis des années. Ouais. C'est pas de maintenant, c'est depuis des années. Et on progresse pas dans ce secteur-là, on progresse pas.
Et on profite d'avoir Adil, arbitre dans le monde amateur, pour lui poser la question sur la semelle de Sergio Hakimi. Jaune ou pas jaune? Deuxième jaune, parce que Todibo était un peu partagé en se disant bon, je veux pas me mettre les arbitres à dos. En tribune de presse, c'était aussi un peu partagé. Toi, ton avis d'arbitre?
Au vu des images, je crois qu'il n'y a même pas de sujet. C'est jaune, bien évidemment, expulsion derrière.
C'est rouge direct, non même?
Ça peut être rouge direct, parce que c'est
en dessous de la malléole.
Oui.
La règle, c'est tacle en dessous de la malléole.
Avec la semelle, donc c'est
pas forcément rouge.
Mais encore une fois, pourquoi la VAR n'intervient pas? Mais
pas rouge, mais jaune.
À minima.
Et deuxième jaune. Et ça fait rouge.
Les gars, sur le carton rouge de Dante, il n'y a pas si longtemps que ça, l'image, ils l'ont regardé 65 fois.
Et c'était qui l'arbitre? C'était déjà Watelier.
Voilà. Allez. Ah ben non. Ah.
Mais c'était pas Clément Turpin hier au VAR. Comme quoi, voilà, ça dépend aussi probablement de ceux qui utilisent les outils. Mais enfin, bon.
On devrait avoir ce challenge, les entraîneurs devraient avoir un challenge, pouvoir demander la VAR une fois par mi-temps. Voilà, c'est tout. Quand il y a un doute, l'entraîneur dit voilà, regarde-moi la VAR. C'est toi qui prends la décision, mais au moins regarde. Et là, il fallait regarder la VAR. Et peut-être que le carton, il aurait été sorti. Et peut-être qu'on aurait pu marquer un premier but. Bref, on refera pas le match. 100% Aiglon, le débrief.
Oui,
on est là pour le débriefer, ouais. 100% Aiglon, le débrief. On sert une petite tisane à Patrice Albergantin. On revient tout de suite sur France Bleu Azur.
À Nice, Holiday on Ice, mardi 9 et mercredi 10 avril, au Palais Nikaya. La nouvelle création Aurore. Des patineurs incroyables, des costumes splendides. Sur une scène glaciale immaculée. Mardi 9 et mercredi 10 avril, au Palais Nikaya de Nice, Holiday on Ice. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur.
Tous les matins, en semaine à 8h25, Adrien Mangano et les VIP de passage sur la Côte d'Azur sont sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.
Salut, c'est Christophe Willem sur France Bleu.
Bonjour, c'est Zazie.
Adrien tend le micro France Bleu Azur à celles et ceux que vous aimez voir au cinéma, à la télé, sur les réseaux. L'actu média, musique, ciné, séries, tous les matins à 8h25 et tout le temps sur francebleu.fr et l'application ici.
France Bleu Azur, enfin un point sur vos conditions de circulation avec toujours pas mal de monde, hein, sur le boulevard Carnot ainsi que le boulevard de la Croisette. On est bien évidemment du côté de Cannes sur l'autoroute, un obstacle, hein, qui est toujours présent quand vous venez de l'Italie juste avant la sortie Antibes, hein, soyez prudents. Pas mal de monde également sur la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. À Nice, c'est le boulevard du Mercantour qui vous posera problème. La sortie Saint-Augustin pour rejoindre l'autoroute A8, on est donc sur la voie Matisse, hein, direction l'aéroport. Dans l'autre sens, un petit peu de monde entre Saint-Philippe et l'entrée du tunnel Malraux. C'est chargé également sur la pénétrante du Paillon en direction de la Pointe de Comte, et puis sur le reste du réseau, hein, pour rejoindre l'Italie via l'autoroute A8. Eh bien, ça roule bien à cette heure-ci.
100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, l'émission des supporters de l'OGC Nice, ça continue le débrief de ce match entre Reims et l'OGC Nice. Vous voulez participer à l'émission? Appelez-nous, la ligne est ouverte, la radio vous est ouverte, 04 93 82 03 04. On va passer au top et au flop, les tops d'abord.
100% Aiglon, les tops.
Max, ton top pour ce match?
Un revenant qui nous a beaucoup manqué contre Nantes et j'ai trouvé hier un petit peu travail de l'ombre, mais quelle importance dans ce milieu de terrain, Pablo Rosario, opération Sentinelle. Je pense que si le gym est resté imperméable hier et a retrouvé cette solidité, cette solidarité, c'est aussi parce que il y avait le retour d'un Pablo Rosario pour équilibrer un peu tout ça, parce que vraiment lui, que ce soit sur le terrain avec ses pieds, voilà, on n'aime pas le joueur, mais il est quand même utile. Mais c'est surtout dans l'état d'esprit, dans ce qu'il dégage, on sent que c'est un vrai joueur d'équipe qui est là pour compenser les déplacements de ses partenaires, pour rattraper les coups. Peut-être que parfois on est un petit peu trop gentil. On parlait de la semelle sur le pied de Todibo, qui a pas osé trop en rajouter. Rosario, lui, voilà, on sent qu'il a ce petit vice aussi qui peut à un moment peut-être faire pencher la balance. C'est un joueur qui a su se rendre indispensable à beaucoup de postes, mais on voit que là, quand il est à son poste de prédilection devant la défense en sentinelle, il est ultra ultra efficace, ultra utile, et ça va être difficile de s'en passer. Il y a Youssouf qui va revenir. Voilà, comment articuler tout ça? En tout cas, moi, pour hier, voilà, le top. Même s'il y en a d'autres, hein. J'ai bien aimé Melvin Barr, j'ai retrouvé un Todibo concentré, j'ai même vu un Lotomba qui a fait plutôt un bon match, mais allez, s'il faut en choisir un, c'est Rosario.
Ce sera donc ton top pour toi, Patrice?
Eh bien écoute, moi, ça aurait pu être mon top, bien évidemment.
Jérémy Boga.
Non, tu veux me l'énerver, mon
gars? Non, pas là, non. Voilà. Non, moi je vais saluer le travail et la prestation de Todibo. Parce que je trouve qu'on l'a mis un petit peu dans le creux de la vague. Il était un petit peu dans le creux de la vague depuis un petit moment. On l'a un peu gansaillé beaucoup de fois dans 100% Aiglon concernant ses prestations. Je trouve que là, on a retrouvé un Todibo droit, costaud, efficace, impérial dans ses duels. Il a ressorti des ballons, il est allé mener un petit peu l'offensive deux, trois fois, il a porté le ballon, il a créé du surnombre, il a pas perdu de duel. J'ai trouvé, voilà, un Todibo comme on l'aime, et je voulais le féliciter de sa prestation, franchement.
Un Todibo consistant, donc, pour Patrice, pour toi, Adil?
J'allais dire Rosario, parce qu'effectivement, les équipes ont besoin d'avoir ce genre de joueurs qui mettent la pression sur l'adversaire, qui font dégoupiller l'ensemble des acteurs du jeu. Mais je vais citer un autre joueur, je vais dire Evan Guessant. Pourquoi Evan Guessant? Parce que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Evan Guessant n'est pas titulaire. Ce gamin, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois il y a une valeur ajoutée, il y a toujours du plus. Alors faut qu'on m'explique pourquoi Mofi est toujours titulaire et pourquoi Guessant n'est pas titulaire.
C'est peut-être une explication toute simple, le prix où on l'a payé Mofi, quoi.
C'est forcément un paramètre. Il y a un joueur qu'on a acheté 30 millions, qu'il faut du coup
amortir.
D'un côté rentabiliser, de l'autre ne pas dévaloriser, parce que on sait comment ça marche, le marché des transferts et l'OGC Nice qui ne roule pas sur l'or, contrairement à ce qu'on pourrait penser ex-propriétaire milliardaire. Mais Florent Ghisolfi, le staff, sait que cet été, quoi qu'il arrive, les cordons de la bourse ne seront pas trop desserrés, donc Terem Office, c'est une valeur marchande importante, et il faut essayer de le garder dans cette dynamique, essayer de faire monter les stats pour pourquoi pas aller attirer des clubs anglais qui eux n'hésiteraient pas en revoyant ces stats, parce qu'elles sont pas si mauvaises, ces stats, quand tu regardes 10 buts cette saison, 25 depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice à peu près. C'est pas catastrophique, mais c'est vrai que dans les prestations, c'est insuffisant. Et on a vu encore tout ce que Guessant pouvait apporter, que Mofi n'arrive pas à faire sur ce jeu de corps, ce jeu de permettre à l'équipe de monter. Patrice, sur 2-3 mouvements, il a réussi justement à garder ce ballon.
Garder ce ballon, et quand tu gardes le ballon, quand t'es dans ce poste-là, c'est déterminant. C'est comme le dit Adil, c'est une valeur ajoutée, Evan Guessant. Et on le dit depuis qu'il joue, hein. Mais pour le moment, il n'a pas le poste de titulaire, voilà, c'est pas le titulaire du poste, donc on va attendre un peu, mais c'est vrai que il mérite largement d'être titulaire à ce poste-là.
Eh bien, c'est pas normal, pardon. Je veux juste rajouter, c'est absolument pas normal. Moi, je suis supporter de l'OGC Nice, je suis supporter de mon club depuis des années. Je ne suis pas supporter du compte en bancaire de l'OGC Nice. Je suis pas supporter de la valeur marchande des joueurs de l'OGC Nice. Moi, je veux que ce soit les meilleurs joueurs qui soient sur le terrain. Et là, en plus, on est un enfant du club. Donc, messieurs de la direction, écoutez-nous et mettez Evan Guessant titulaire.
Ah, effectivement, pour un supporter, du point de vue d'un supporter, ça s'entend. Après, il y a d'autres paramètres que doit prendre en compte la direction, les entraîneurs, tout ça.
Et je pense que cet état d'esprit dont parle Adil, ça le dessert, en fait, Evan Guessant, parce qu'on sait que lui, il fera jamais la tête. C'est un enfant du club, il aime le GC Nice, qu'il soit titulaire, remplaçant, qu'il joue 5, 10, 45, 90 minutes, il se donnera à fond pour son club. Et du coup, au moment de cocher les noms sur la feuille de match, ça rentre aussi dans l'esprit du coach, de se dire j'ai un jeune là qui, quoi qu'il arrive, se donnera, qu'il soit sur le banc ou pas, alors qu'un autre, Mofi, qui peut faire un peu la tête. Et il y a des joueurs qui sont peut-être vus dans des rôles de joker parce que justement ils ont cet état d'esprit toujours positif.
Maintenant, c'est top, il y a un joueur qu'on cite pas, alors tu l'as cité brièvement, Max, mais qu'on cite pas régulièrement et qu'on devrait citer pratiquement à chaque match, c'est Melvin Barr. Je trouve que Melvin Barr, on s'est habitué à ce qu'il soit exceptionnel.
On le cite quand même. Hein.
Alors on le cite, mais rarement dans les tops. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de mettre Melvin Barr comme top et même comme top de l'année, parce que vraiment, il nous fait une saison extraordinaire, Melvin Barr, et on l'entend pas. On l'entend jamais se plaindre sur les réseaux. Il fait pas de vagues. Il est là, il fait ses matchs. C'est pas des joueurs comme ça qu'on aimerait.
Oui, mais c'est des... on attend que de toute façon tous les joueurs de l'effectif qui constituent l'effectif à leur poste soient aussi bons que Melvin Barr à tous les matchs. Mais c'est vrai qu'on malheureusement on est défaillant dans ce cas de figure. C'est Melvin Barr, il est tout le temps bon, et t'en as d'autres qui sont pas tout le temps bons. Et quand tu es pas tout le temps bon, ben malheureusement pour nous, tu es pas efficace pour l'équipe. Et dans le secteur offensif, je trouve qu'on a énormément de carences. Et je le dis depuis des années. Je le dis pas depuis hier. Hein, je le dis depuis des années. Quoi. Et si on n'arrive pas à régler ce problème de détermination et d'efficacité offensive et de justesse technique, putain. Qu'est-ce que j'ai vu comme contrôle raté, comme passe raté dans des zones de vérité qui sont déterminantes dans le football. Je te jure, des fois je regarde, j'adore mon équipe, j'adore mon club, j'adore. Mais des fois je regarde le OGC Nice, après je regarde d'autres matchs et je peux pas ne pas faire la comparaison, tu vois. Ou dans des zones de vérité, tu dois être déterminant dans ce que tu fais. Et on l'est pas. Et on l'est pas régulièrement.
Et ça, c'est dû à quoi? C'est l'état d'esprit? C'est un manque d'entraînement? Est-ce qu'à l'entraînement, il faut axer plus là-dessus?
Non, c'est dû, je pense, aussi à ton exigence personnelle. Où tu mets ton niveau d'exigence personnelle en tant que footballeur de haut niveau? Où tu mets ton haut niveau à toi? Moi, je sais pas. Moi, j'ai eu des entraîneurs qui me disaient à l'entraînement, tu dois pas rater une passe. Tu dois pas rater un contrôle. Si t'as pas raté un contrôle, t'as pas raté une passe, t'as fait un bon entraînement. Si t'as 5 au casse, t'as mis 4 au fond, t'as fait un bon entraînement. Si c'est pas le cas, t'as pas fait un bon entraînement. Et un match, c'est pareil. Tu dois pas rater de passe, tu dois pas rater de contrôle. Alors, quand t'as raté un, ça va pas te tuer le match. Mais tu dois en rater un, tu dois en rater deux. Mais nous, dans les zones de vérité, c'est systématique qu'on rate le dernier geste ou l'avant-dernier geste qui va te donner l'opportunité de terminer l'action. Ou quand t'arrives à terminer l'action, on rate le geste qui va la mettre au fond. Et ça, j'arrive plus. Je focalise sur ça. Ça me détruit la tête quand je regarde les matchs.
C'est sûr qu'il fallait se mouiller la nuque avant de passer à Manchester-Liverpool, hein, hier. Même si Liverpool a raté énormément d'occasions aussi.
Mais la qualité, c'est la qualité intrinsèque, c'est l'exigence intrinsèque des joueurs. Et du coach, bien évidemment, qui doit les amener à un niveau, un haut niveau, mais déjà, ton exigence à toi, elle doit être très très haute.
Et c'est pas une question de moyens.
Franchement, quand tu regardes encore une fois l'effectif de l'OGC Nice, quand tu regardes les attaquants de l'OGC Nice, quand tu regardes la qualité qu'ont ces joueurs respectivement, tu vois, tu te dis c'est pas possible qu'on n'arrive pas à être meilleur dans ce secteur de jeu, tu vois. Et moi ça me pollue ma tête. Je te jure, ça me rend fou.
Non, mais on sent que t'es impacté et que vraiment ça te tracasse un peu.
Ça me touche. Ouais. Ça me touche. Ça m'énerve. Ma femme n'en peut plus, je te jure.
Une pensée émue pour Barbie. Alors, encore 6 journées Barbie, ça va bien se passer. C'est bientôt fini. Ce qui n'est pas bientôt fini, par contre, c'est le débrief de 100% Aiglon. Encore une demi-heure. N'hésitez pas à nous appeler, participez vous aussi. Donnez-nous vos tops, vos flops. 04 93 82 03 04. C'est votre émission. Profitez-en, on est les seuls à vous donner la parole sur les Aiglons sur France Bleu Azur.
Quand vous entendez ça.
Ain't no sunshine when she's gone.
Où ça? Vous écoutez un collector de France Bleu. Les collecteurs de France Bleu, du lundi au vendredi, dès 23h.
Il revient sur la Côte d'Azur. Verino arrive à la Palestre au Canet. On est very happy de le retrouver.
Ça fait 3 semaines qu'on n'avait plus de savon à la maison pour se laver les mains. Ouais, on a des vrais problèmes.
Découvrez Focus, son spectacle, avec humour. Verino y partage sa vision du monde.
On essaye de maintenir le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré d'ici 2100. Vous avez entendu ça? Bon bah, il semblerait qu'on va rater.
Verino avec France Bleu Azur, mercredi 10 avril à la Palestre au Canet. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur.
Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro.
La MAF, je préfère la MAF.
Conditions de l'offre sur maf.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici.
À 18h28, vous êtes sur France Bleu Azur, 100% Aiglon, le débrief, ça continue, le temps pour moi de vous dire que globalement, ça roule pas trop mal hein, sur les routes de la région, des ralentissements à signaler quand même sur la pénétrante du Paillon, sur la route de Turin, dans les deux sens de circulation, sur la voie Matisse et la sortie Saint-Augustin qui vous posera quelques difficultés, donc en direction de l'aéroport, et puis sur l'autoroute A8, ça roule bien, plutôt à cette heure-ci, une fois arrivé à Cannes, boulevard Carnot et avenue du Campan, dans les deux sens de circulation, vous poseront quelques difficultés.
100% Aiglon. 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, ça continue toujours avec Maxime Baquier, Patrice Alberganti et Adil, notre supporter et arbitre.
France Bleu Azur, la radio des supporters de l'OGC Nice.
On a fait les tops et après les tops, les flops.
100% Aiglon, les flops.
Alors pour mon petit plaisir personnel, d'habitude je commence par toi Max. Ce soir, je vais commencer par Patou. Je le sens chaud.
Tu veux l'achever, là. Ah ouais, ouais. Il va pas finir l'émission, mon Patou.
Mon Patou, alors, les flops. T'as le droit de donner qu'un joueur, deux max. Hein.
Ah non, c'est un.
Non, mais moi, je vais. C'est pas dur hein, pour moi. Hein. Moi, je vais dire Jérémy Boga. Parce que Jérémy Boga, il doit pas le rater. Il a pas le droit de rater cette occasion. T'as pas le droit de rater cette occasion. Ah, je sais, encore une fois, que c'est difficile d'être attaquant et de marquer des buts. Je le sais. Mais je sais aussi que dans ta détermination, dans ton état d'esprit, dans ce que tu fais, dans ce que tu dois faire pour l'institution, pour le club, dans ce que tu dois faire pour tes coéquipiers, dans ce que tu dois faire pour le championnat, pour les supporters, cette occasion, tu dois la mettre au fond. Parce que tu mets cette occasion au fond, tu prends 3 points, tu rentres à la maison, t'as sauvé ton match, déjà. Il a pas été mauvais hein, sur ce match, Jérémy Boga, mais tu as accentué ton match, et derrière, tu as 3 points de plus, et là, dans la course à l'Europe, ces 3 points, je te garantis qu'ils vont te manquer à la fin. Et ils nous tendaient tellement les bras avec les occasions qu'on a eues. Je parle de Monfi, je parle de Thuram et je parle de Boga. C'est des occasions que tu dois pas rater. Tu dois les mettre au fond une fois pour toutes. Ces occasions, ils rentrent avec les 3 points. Et voilà, donc Jérémy Boga, si tu veux, stigmatise un petit peu le manque d'efficacité offensive. Alors tu peux dire que c'est global, c'est général. Mais lui, cette occasion à 1m50 de la cage, tu dois tirer dans la cage. Quoi.
Est-ce que c'est manqué, ça tue pas aussi le moral de l'équipe? Je m'explique. C'est-à-dire que les attaquants, c'est un petit peu ceux qui vont donner le salaire au reste de l'équipe. C'est-à-dire, tu marques, t'as les 3 points. Tu marques pas, t'as pas de points, donc t'as pas de salaire. Est-ce que aussi le fait que ces attaquants soient totalement inefficaces, on peut le dire, ça enlève pas aussi une motivation et de la puissance à cette équipe, au-delà du résultat et de l'attaquant, tu vois, au niveau de l'état d'esprit général?
Oui, je pense que ça joue dans les têtes des défenseurs. Puisque j'ai eu cette discussion-là, puisque moi j'ai encore une fois, quand je suis passé à l'OGC Nice, il y avait ça, on a eu ce problème offensif, d'efficacité offensive, et nos défenseurs, des fois, ils nous disaient, les gars, on en a plein le cul, nous. Mmh. On se casse le cul derrière pour défendre comme des chiens et pas prendre de but. Et vous, les occasions que vous avez, t'en as trois, t'en as quatre dans le match, vous les mettez pas au fond. Donc, à un moment donné, les gars, il faut qu'on se parle. Moi, j'ai vu un Youssef Salimi, par exemple, péter un câble à l'entraînement parce qu'un un attaquant qui était titulaire du poste, je dirais pas le nom, a pété un câble parce qu'il avait encore raté un but à l'entraînement. Et ça peut faire disjoncter. Mais après, t'es un groupe, t'es un collectif, tu gagnes ensemble, tu perds ensemble, mais je pense que ça peut jouer dans les têtes des défenseurs. À un moment donné, tu dois avoir une forme de lassitude en te disant, putain, encore une fois, quoi.
Ouais, je fais mon taf et devant, ils le font
encore
pas, quoi.
Encore une fois, quoi.
Ouais, mais voilà. Qui pour leur tirer les oreilles aux attaquants? Puisqu'on nous répète, que Jérémy Boga, dans son registre, c'est un des meilleurs joueurs du monde.
Non, arrêtez de me dire ça.
Ah, ce sont les discours, Melvin Barr, hier en zone mixte. Alors, on a suffisamment tapé sur Bulka, qui avait mis les pieds dans le plat pour comprendre que, Barre hier en zone mixte nous disent que bon, non, mais on leur en veut pas aux attaquants, c'est comme ça, ça peut arriver. Même Todibo disait c'est arrivé au meilleur, ok. Mais quand ça se répète comme ça, et du coup, ça a encore incité Farioli à nous sortir sa liste de statistiques improbables pour nous dire que parmi les 54 championnats et les 1000 clubs au monde, on était la deuxième pire équipe au monde en termes d'efficacité et d'occasion nette convertie. Alors, j'ai regardé, c'est Melbourne qui est la pire équipe, mais derrière, effectivement, si tu prends les expected goals, hein, l'OGC Nice est la deuxième pire équipe de la planète sur 1000 équipes confondues. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça pèse, mais on voit pas de progrès. Donc on parlait de l'entraînement, mais peut-être aussi de cet état d'esprit. Qui pourra aller tirer les oreilles de ces attaquants, puisque quand Bulka le fait, sur un autre registre, sur l'état d'esprit, il se fait reprendre de volée par Dante, par Todibo. Donc c'est peut-être ça aussi qui manque, ce côté un peu trop gentil.
Justement, vous me tendez la perche, parce que moi j'allais avoir un flop. Déontologiquement, c'est un peu difficile de le mettre dans les flops, mais c'est Dante, c'est le capitaine. C'est lui qui est chargé d'aller recadrer les uns et les autres. En plus, au niveau de son jeu personnel, il commence à être un petit peu fatigué, c'est un petit peu plus brouillon. Hier, il fait quelques relances approximatives, on voit que physiquement, il tire un petit peu. Alors, c'est Dante, c'est un monument à Nice, on ne le critiquera jamais. Mais je pense que si on avait un capitaine d'une autre envergure, je parle dans l'état d'esprit, peut-être que ça irait un petit peu mieux.
Est-ce qu'il n'est pas à l'image de l'entraîneur, c'est-à-dire allez, on ménage la chèvre et le chou, on essaie de pas faire trop de vagues dans le vestiaire. Est-ce qu'il n'est pas le reflet en fait des consignes de l'entraîneur?
Oui, mais à Nice, c'est pas ça. L'identité niçarde, l'identité du club, c'est pas ça. L'identité, c'est pas de faire dans la demi-mesure. On est là, enfin tous les matchs aurait que t'as connus, c'est des matchs où il y avait de l'engagement. On allait à 100%. Et puis quand les choses allaient mal, ben on se disait les choses. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, il faut y aller tout doucement.
On va encore remonter un cran, parce qu'on peut remonter haut comme ça, mais toi, l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit que nous on connaît, parce qu'on suit le gym depuis 20, 30 ans, enfin, voire plus pour certains. Est-ce qu'un Farioli, il est vraiment au courant qu'il y a un esprit niçois? Est-ce que Dante l'a compris? Parce que bon, ça fait un moment qu'il est ici. Mais si Farioli, il insuffle pas ça au départ, Dante, lui, ne fait qu'appliquer ce que Farioli lui dit.
Farioli, c'est un tacticien. Farioli n'a pas trop la maîtrise de ce que j'en sais de la langue française. Et il a un relais de poids qui devrait être Dante et puis les cadres du vestiaire. Pour moi, la responsabilité de la direction, parce que je sais pas si on parlera après d'Ineos qui veut vendre, pas vendre, enfin, on n'est pas une danseuse, hein, l'OGC Nice, on a un club avec une histoire. Pour moi, la direction et la gestion de l'équipe a toute sa responsabilité.
Ça, au moins, c'est clair. Ton flop, Max?
Oui, bah je pourrais remettre effectivement une pièce sur Jérémy Boga. C'était déjà mon flop contre Nantes. Je trouvais qu'il avait incarné ce manque d'envie, ce manque de détermination, et voilà, cette occasion ratée. Patrice en a beaucoup mieux parlé que moi. Ça illustre cette carrière qui restera, je pense, malheureusement, ce potentiel gâché par ce manque d'envie flagrant de ce joueur qui fait un bon match sur cinq, qui remet du coup une pièce dans la machine à espoir en se disant ça y est, on a trouvé notre Jérémy Boga, et puis le soufflet retombe. Donc je parlais de Saint-Maximin tout à l'heure, c'est vrai que je faisais un peu le parallèle. Saint-Maximin, on voyait de temps en temps un éclair, on se disait c'est ce joueur, il est incroyable, et tu repartais sur une série de 3-4 matchs un peu mièvre. Mais je suis assez d'accord, je trouve que il manque ce joueur, ces joueurs qui mettent les pieds dans le le plat, vont tirer les oreilles quand quand ça sort un peu du troupeau, quand il y a une contre-performance. C'est pas normal que Mofi traverse ses rencontres comme ça sans gagner un seul duel et qu'il y en ait pas un qui aille lui dire. Alors en tout cas sur le terrain ou en public, peut-être que dans le vestiaire ils le font. On n'est pas au courant de tout, mais Mofi faut le bouger quoi. Faut lui dire non, si c'est toi notre neuf, va nous gagner ces duels, va nous gagner ce terrain-là. Peut-être que c'est ce profil-là qui manque. On sait que Ghisolfi avait voulu faire venir Cahuzac, Yannick Cahuzac l'été dernier dans le staff. Peut-être pas la bonne personne, mais le bon profil. Il avait dû sentir déjà que dans ce staff, où on est à la 28e journée, on n'arrive même pas à se souvenir des noms des adjoints de Francesco Farioli, parce que c'est très très discret, ça se met jamais trop en avant.
Est-ce que c'est pas le revers de cette médaille dont on parle depuis le début de la saison? Depuis le début de la saison, on est les premiers à dire c'est top dans cette équipe, ils avancent tous ensemble, il n'y a pas une tête qui dépasse. Est-ce que le pendant, justement, c'est que d'avoir aucune tête qui dépasse, ça veut dire aucun leader et personne pour retoquer par exemple un Mofi ou un Boga, quand il loupe des trucs qu'il ne devrait pas louper, Pat?
Ouais, mais alors t'as de la responsabilité. La responsabilité, elle est déjà du coach. Hein. Le coach, il doit être capable de taper du poing sur la table quand il n'est pas satisfait des performances de ses joueurs. C'est la base, non? Je sais pas, non.
A priori,
c'est la base. Et après, bien sûr, tu dois avoir des cadres dans le vestiaire qui doivent faire le relais. Mais j'ai envie de te dire, j'ai plus l'impression que le football, c'est ça, moi. Plus l'impression que le football, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien le droit de dire. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour parler à un joueur, il faut prendre un rendez-vous, quoi. J'ai l'impression que les coachs, la direction, tu vois, il faut téléphoner à l'agent, dire à l'agent, écoute, j'aimerais bien parler à Jérémy Boga, est-ce qu'il peut venir me voir dans mon bureau dans 3 jours? Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de... Moi, je me rappelle, putain, à l'époque, on rentrait dans les vestiaires, tiens, t'étais pas content d'un coéquipier à toi, pourtant c'était ton pote, ton ami, tu le prenais dans les bras, mais on se rentrait dans la gueule, quoi. On se disait les choses, on se disait peut-être t'as pas été bon, qu'est-ce que tu m'as raté, putain, défends, tu défends pas, qu'est-ce que tu fais, tu perds tous les ballons. On se parlait, on était concernés par le match, quoi. On était concernés par l'enjeu et par le bon déroulé du match pour avoir un résultat. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne se parle, on se dit plus rien. Alors peut-être qu'ils le font en interne, dans le vestiaire, mais en tout cas sur le terrain, je vois pas de joueurs se rentrer dedans en disant « Oh, maintenant c'est bon, quoi, on y va ». Tu vois, je veux dire, alors, ils te parlent tous des réseaux sociaux, des films, des vidéos, des ci, des là. Mais bon, ça reste quand même un sport où tu dois gagner tu dois avoir des résultats et gagner des matchs, quoi.
Et quand Bulka le fait, ouais, il se fait reprendre.
Non, mais, qu'il se fasse reprendre, c'est pas grave. Mon mail a dit ce qu'il pensait. Je veux dire, je trouve pas que la réaction de Bulka, ce soit une réaction, mauvaise. Alors, t'en as qui vont le, comme je l'avais dit la dernière fois, ça peut diviser, comme ça peut réunir. T'en as qui vont mal le prendre, mais ceux qui vont mal le prendre, c'est ceux qui ont rien compris au sport co. On est 25 joueurs concernés par un projet. On est 11 sur le terrain à défendre les couleurs de l'institution. Ce qui prime, c'est l'institution. C'est pas ton cas personnel. Donc, Bulka, il a raison de dire ce qu'il a dit. Ce qui prime, c'est l'institution. C'est l'OGC Nice. C'est pas le contrat de Mofi, le contrat de Bulka, le contrat de Boga. Ce qui prime, c'est les résultats. C'est pourquoi tu es arrivé à l'OGC Nice. Pourquoi le club t'a fait signer un contrat de tant de millions, de milliers d'euros par mois? Tu vas aller prendre ton chèque à la fin du mois. Donc tu dois rendre au club, sur le terrain, pourquoi il investit sur toi. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on en soit là, quoi.
Après, pour revenir à l'histoire de Bulka, effectivement, je suis d'accord avec vous, il a bien fait de sortir du bois. Par contre, est-ce qu'on aura un deuxième qui le fera? Rien n'est moins sûr parce qu'il s'est fait retoquer derrière.
Non, mais après,
le message, c'est ne sors pas du bois, quoi.
Non, mais s'ils le font devant la presse, c'est que devant la presse, c'est pas autorisé. Je peux comprendre. Mais s'il le fait en interne dans le vestiaire, pas de problème. Ça porte ses fruits. Là, il a dit à la télé. Mais s'ils le font en interne, il n'y a pas de problème. Si ça reste dans le vestiaire. Mais on doit avoir des joueurs qui soient capables de le faire.
Non, puis il l'a fait à chaud, Bulka. On sentait qu'il en avait gros sur la patate, que ça devait faire un moment qu'il voyait ces comportements-là et que là, voilà, Nantes, c'était la goutte d'eau. Il le fait à chaud. Il le fait avec ses mots. Il est pas français. Donc, il dit un peu à sa manière. Donc, il le dit publiquement. Effectivement, ça peut froisser. Mais que 5-6 jours après, donc, publiquement, Dante dise et stigmatise Bulka en disant qu'il fallait pas le faire publiquement, bah lui, à froid, il fait un petit peu la même chose, finalement. Alors, avec son brassard de capitaine, oui, qui lui donne une forme de légitimité, mais c'est sûr que ça n'incite pas les joueurs à prendre un peu ses responsabilités.
On est dans l'ère de la com, Max. C'est juste de la com, et il y a des gens derrière qui sont payés pour, et qui leur disent, attention les gars, là, vous avez dit ça, c'est pas bon pour l'image du club, rattrapez le coup, et l'image du joueur, ils s'en foutent, ouais, et là, l'institution, elle passe avant tout.
Je pense que si tu veux essayer d'embellir toujours le tableau, les supporters, ils sont pas dupes quand même.
Non, mais
de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est aussi important de dire les mots, et ça permet même de faire retomber la pression quand t'entends les mots que t'as envie d'entendre.
Clairement, clairement. Puis pour rebondir sur ce que disait Patou, on est dans un football aseptisé à tous les niveaux. Et on n'a pas l'équivalent d'un Cyril Roll sur le terrain. Enfin, après la prestation indigeste, la première mi-temps contre Nantes, il y aurait eu un Cédric Varro, un Sami Traoré. On aurait eu des types qui, quitte à aller mettre des tacles à la gorge, mais histoire de faire remuer un petit peu tout ça et de réveiller le public, etc. On n'a pas de manifestation corporelle de révolte sur le terrain. Alors, tout est aseptisé. Moi, c'est pas le football que j'aime. En tout état de cause, je pense qu'effectivement, derrière, il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas. Moi, je suis simple supporter, mais c'est vrai que quand on regarde les équipes de com du club et chaque joueur, le nombre de personnes, de média training, de coach, etc., un joueur peut avoir un coach pour les réseaux sociaux, un coach pour parler à la télévision, un coach pour parler à la radio. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est le football d'aujourd'hui. Au risque de passer, excusez-moi du terme, pour un vieux con, mais je préférais quand c'était avant.
C'est un peu policé. Top les flops, je crois qu'on a fait le tour. On va passer un focus sur l'attaque niçoise. Focus sur cette attaque niçoise, attaque patraque, comme tu l'as titré, Max. Alors, deuxième,
ouais, j'ai un peu parlé, c'est vrai.
Deuxième pire attaque au monde. Mais qu'est-ce que c'est que ces stats ?
Bah on l'a dit, c'est les expected goals, ces occasions nettes non converties qui font que l'OGC Nice en est là aujourd'hui, qui font que l'OGC Nice n'a jamais eu de marge depuis le début de la saison. Et ah oui, quand tu prends ce classement des 1000 équipes qui font partie de ces 54 championnats de première division de tout pays confondu, le GIM est la deuxième pire équipe dans ce domaine-là. Et c'est le coach lui-même qui se sert souvent de ses stats hein, quand ça va pas pour voilà, essayer de justifier un petit peu l'injustifiable.
Là, en termes de com', c'est pas génial par contre.
Bah, ça lui permet en tout cas de dire que ce qu'il veut mettre en place, ça fonctionne, puisqu'il y a ces occasions créées, et que derrière, bah, c'est pas ça lui qui est devant le but pour rater l'occasion. Alors en même temps,
c'est lui qui met les trois joueurs.
Les joueurs. Et oui. Quand on dit qu'il y a un Guessant qui lui se bat comme un chiffonnier, et qui a en plus marqué des buts, hein, il n'est pas juste là dans l'état d'esprit, on peut aussi lui dire, bah, attention, il y a Guessant sur le banc, peut-être que lui, à la place de Boga, il aurait marqué.
Ça serait pas mal de le prévenir qu'il y a des joueurs qui attendent sur le banc. On va parler de cette attaque, on va développer un petit peu tout ça. Dans un instant, dans 100% Aiglon, le débrief, vous voulez participer, vous aussi, vous voulez donner votre avis sur l'attaque, la défense ou plus globalement sur le club. Appelez-nous 04 93 82 03 04 100% Aiglon, ça continue.
Il revient sur la Côte d'Azur. Verino arrive à la Palestre au Canet. On est very happy de le retrouver.
Ça reste ce qui se fait de mieux en France.
Découvrez Focus, son spectacle avec humour. Verino y partage sa vision du monde.
Prends pas la grosse tête. Et ben t'inquiète mon ami. Hein.
Verino avec France Bleu Azur, mercredi 10 avril à la Palestre, au Canet.
Il y a une fille qui a voulu faire une photo avec Verino. Elle s'est trompée de Verino. Et tu sais comment je sais qu'elle s'est trompée de Verino ? Parce que c'est moi qui tenais l'appareil photo. Donc vraiment.
Gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur. Du 12 au 21 avril, ne manquez pas le rendez-vous incontournable des arts de la Côte d'Azur. Et c'est à Antibes Juin-les-Pins, Antibes Art Fair. Et la Week du Design et des Arts vous invite à venir découvrir les artisans d'art, designers, mais aussi les plus belles pièces d'art moderne, contemporain, peinture, sculpture, bijoux, mobilier et bien d'autres œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Informations sur www.antibesjuinlespins.com.
18h45, on fait un dernier point sur vos conditions de circulation. Le 19h02 en gare de Nice est supprimé. Il n'ira pas à Cannes-la-Bocca. Prochain train, pardon, pour Cannes-la-Bocca, ce sera à 20h02. En gare de Cannes, justement, pas mal de retard. 5 minutes de retard pour le 18h55 pour Grasse. Une demi-heure de retard pour le 19h01 en direction de Nice. 5 minutes de retard pour le 19h08 en direction de Vintimille. Et puis le 19h31 pour Nice. On aura lui carrément une heure de retard. C'est un TGV, donc prenez vos dispositions. En gare de Menton, pas de gros retard à vous signaler. Ça roule plutôt bien sur les routes, justement. À Cannes, c'est le boulevard Carnot qui vous posera problème, ainsi que le boulevard de la Croisette, boulevard Carnot, hein, dans le sens Menton, avenue du Campon, également difficile. difficile. Pénétrante grâce Cannes, difficile dans le sens descendant, donc en direction de Cannes. La route du bord de mer vous posera également des problèmes entre Antibes et Villeneuve-Loubet dans les deux sens de circulation une fois arrivé à Nice. Du monde hein, sur la promenade des Anglais au niveau de l'aéroport en direction du centre-ville. Direction l'aéroport sur la voie Matisse, c'est la sortie des Bosquets et Saint-Augustin qui est difficile, ainsi que l'accès à l'autoroute A8 hein, via l'avenue Giscard d'Estaing. Direction le centre-ville, ça roule plutôt bien, un petit peu de monde hein, quand même entre Saint-Philippe et l'entrée du tunnel Malraux. Pas mal de monde, hein, trafic chargé sur la pénétrante du Paillon en direction la Pointe de Comte. Et sur tout le reste du réseau azuréen, ça roule bien.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, ça continue. Maxime Baquier, Patrice Alberganti et Adil, ils sont toujours avec moi. On va se projeter sur cette fin de saison. Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste pour cette fin de saison, Max?
Après ces dernières minutes...
Pas beaucoup, hein.
On s'est focalisé sur ce qui n'a toujours pas fonctionné à Reims, l'animation offensive, le fait que Nice n'arrive toujours pas à marquer, à concrétiser ses occasions. Après, on avait aussi démarré cette émission en disant qu'on avait retrouvé cet état d'esprit. Et en interne, il y a de l'optimisme sur cette équipe qui s'est un peu retrouvée, a vécu ce match contre Nantes peut-être aussi comme une forme d'électrochoc, le match contre Nantes, les mots de Bulka. On nous a répété, re-répété 10 fois, 20 fois là ces dernières heures qu'il y avait une semaine d'entraînement vraiment top.
Méthode Coué.
Écoute, on nous l'a dit avant le match, on nous l'a redit après, que le match reflétait cette très très bonne semaine d'entraînement. Et comme on joue souvent, comme on s'entraîne, Patrice le redisait tout à l'heure, c'est comme si voilà, il y a eu peut-être un avant et un après Nantes, on va l'espérer, ouais. Et que ce match nul qui aurait dû se finir en victoire était peut-être le début d'une série positive. Il y a de l'optimisme, plus qu'après la victoire à Lens, où nous on était rassurés, enthousiasmés par cette victoire 3-1 chez un concurrent direct, mais qui était peut-être un peu en trompe-l'œil parce que les Nordistes nous avaient fait beaucoup de cadeaux. Là, il y a quand même eu un contenu consistant, et quand tu regardes le calendrier, tu peux espérer des résultats sur les 6 dernières rencontres.
Oui. Alors, ce match était, tu nous l'as dit, selon le club, hein, à la hauteur de cette semaine qui était une semaine excellente au niveau de l'entraînement. Ça donne un 0-0, Patrice. On aimerait que l'entraînement soit un peu meilleur.
Ouais, mais il parle du contenu. Et ouais, le contenu. Bon. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais le contenu était là, franchement. Encore, je le répète, j'ai regardé le match à la télé, mais j'ai pris du plaisir. Donc, j'ai vu des choses intéressantes. Après, le seul point qui n'a pas été sur ce match-là, c'est l'efficacité offensive. Comme dans beaucoup de matchs cette année.
Et c'est pas du patinage artistique, hein. On n'est pas jugé sur le contenu, hein. On n'a pas des arbitres qui mettent 8, 9, 10. Hein.
Je suis d'accord, mais il faut marquer.
Mais ça te donne des raisons d'espérer.
Il faut marquer. Alors, pour répondre à ta question, oui, je suis optimiste, parce que on est encore cinquième, parce qu'on n'est pas... Voilà, avec un peu de chance, Paris Saint-Germain va gagner la Coupe de France et la septième place va devenir qualificative pour une Coupe d'Europe. Et je pense que l'OGC Nice y sera en Coupe d'Europe. Mais, et je veux qu'il y soit, parce que je ne peux pas concevoir qu'avec la saison que nous avons fait jusqu'à présent, qu'on n'arrive pas à avoir une place européenne. Et je serais vraiment, vraiment très déçu.
C'est le début de saison qu'on a fait, moi, surtout. Je relève un début de saison exceptionnel et une deuxième partie de saison. Alors, je crois qu'on le max, t'avais regardé le classement de cette deuxième partie de saison. Hein. Ah ouais, depuis janvier, on est relégable.
Ouais, 16e bilan comptable depuis le 1er janvier.
C'est ça qui nous frustre. C'est ce qui nous frustre.
Mais ouais, c'est qu'un début de saison extraordinaire et une deuxième partie où on est complètement dans les choux. Hein. Je crois que c'est Lyon qui est européen. Ouais. Hein,
Qui a gagné le plus de matchs depuis son changement d'entraîneur. Mais il y a, comme le dit Patrice, cette chance, c'est presque miraculeux d'être encore cinquième après cette année 2024, pour l'instant assez catastrophique sur le plan comptable. Mais parce qu'aussi, la concurrence n'avance pas beaucoup plus vite derrière. Et on en parlait déjà lundi dernier, et ça a encore confirmé ça ce week-end. Il y a ces quatre premiers qui avancent pleine balle. Alors, à part Paris qui avait fait beau tourner, mais sinon, le 2, 3, 4, Brest, Monaco, et Lille ont gagné et continuent de creuser l'écart sur 5, 6, 7, 8, 9, même avec Lyon qui a gagné à Nantes.
Points, ouais.
Voilà, je pense qu'il y a deux wagons aujourd'hui pour l'Europe et que le gym est dans ce deuxième et qu'il va falloir viser cette cinquième place. De ce qu'on nous a dit, c'est pas une info, c'est officieux, les Aiglons se sont fixés l'Europa League comme objectif minimum. Voilà, ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher cette Europa League. C'est pas peu importe la C3, la C4, non. C'est au pire la C3. Ça veut dire qu'ils pensent peut-être encore possible d'aller accrocher ces quatre premières places. Mais voilà, il faut une différence entre la C3 et la C4 qu'on a disputée l'année dernière et qui nous avait offert quand même malgré tout de belles affiches.
La question qu'on peut se poser, c'est admettons qu'on n'arrive pas à voir l'Europe. Quelles conséquences dans le vestiaire? Quelles conséquences pour le club?
Ben ça, on verra cet été, mais c'est sûr que ça ne faciliterait pas la tâche à Florent Ghisolfi, le directeur sportif, qui travaille déjà sur le mercato. Ça commence à bruisser. Il y a des pistes, mais oui, forcément qu'il y a plan A, plan B, plan C en fonction du classement, en fonction de qui va rester, qui va partir. Et c'est sûr que oui, de finir 4, 5, 7, 8,
c'est pas pareil.
C'est pas du tout pareil.
C'est pas la même. En parlant de mercato et de ça commence à bruisser. Ça commence à bruisser aussi du côté de Ghisolfi. Alors, certaines rumeurs, on reste sur des rumeurs de départ, puisque un grand club anglais serait sur lui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça serait une énorme perte pour l'OGC Nice?
Ghisolfi?
Et surtout, est-ce que ça serait une perte qu'on pourrait compenser?
Tu parles de Florent Ghisolfi?
Je parle de Florent Ghisolfi.
Franchement, oui, ça serait une grosse perte si on perd Florent Ghisolfi. Pas longtemps qu'il est là quand même, hein. Donc moi je le vois pas partir tout de suite, hein, quand même. Hein. Alors même s'il a des clubs qui seront intéressés par son profil, mais moi je le vois rester à Nice. Bien sûr, si on le perd, ça sera une grosse perte. Et pour le remplacer aujourd'hui sur le marché, qui peut avoir,
c'est vraiment pas la tendance. Hein.
Ouais, c'est vraiment pas la tendance parce que
il est bien à Nice pour des raisons sportives, pour des raisons personnelles.
Ouais,
il est là depuis un an et demi. C'est pas le genre à lâcher le navire. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout la tendance.
Moi, je suis là juste pour relayer les rumeurs.
Oula, hein.
C'est vous les spécialistes, hein, messieurs.
Mais
hein.
Peut-être sur la question des Coupes d'Europe, Adil, toi, supporter, C3, C4, si on considère que la C1 est un peu loin, tu fais une différence ou toi, voilà, peu importe. Quelle Coupe d'Europe entre la C3 et la C4?
Si Farioli reste l'année prochaine, avec le même système de jeu, la même animation offensive, je préfère qu'on joue l'Europa Conference League que l'Europa League, parce que clairement, on n'a pas le niveau. Quand je vois le plateau qui est très relevé en Europa League, hein, parce qu'il faut voir les équipes qui redescendent de Champions League, je préfère aller loin dans la petite compétition que pas loin dans la meilleure des compétitions.
Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau financier, Max, ou non? C'est que sportif?
Non, il y a un vrai gap entre la C1 et la C3. Où participer à la Ligue des Champions, quels que soient tes résultats, c'est un vrai coup de boost financier. Mmh. Après, C3, C4, les présidents de club disent souvent que c'est à partir des quarts de finale que tu commences à t'y retrouver financièrement. Donc, non, c'est plus d'un point de vue attractif, notoriété. Et je pense que le GC Nice ne peut pas aujourd'hui faire l'économie, entre guillemets, et le difficile, plutôt le bon mot, par rapport à ces petites Coupes d'Europe. On a pas suffisamment eu de campagne européenne ces dernières années pour se dire C4 non, faudra, si c'est le cas, faudra la jouer à fond. On a vu l'année dernière, on n'était pas loin de s'ouvrir les portes du dernier carré, et c'est aussi comme ça que tu vas fidéliser, créer quelque chose avec les supporters,
peut-être pouvoir recruter plus facilement aussi avec une Coupe d'Europe.
On s'était régalé, hein. Moi je m'étais régalé, on a vu des beaux matchs, franchement, je m'étais régalé, moi, dans cette compétition.
Je pense pas que ça t'aide vraiment à aller chercher des joueurs, parce qu'il y a énormément de clubs, finalement. Maintenant, vu que le 7e, des fois 8e des championnats joue l'Europe, ça veut dire que t'as quand même beaucoup de concurrence qui est également européenne. Donc, je pense pas que la C3, la C4, Patrice, dis-moi si je me trompe, mais soit vraiment attractif pour attirer des joueurs.
C'est moins attractif, mais après, il faut savoir aussi les objectifs que t'as dans ton club. Forcément, t'as pas forcément l'objectif de jouer la Champions League tous les ans. Donc, tu joues l'Europa League, c'est bien. Tu joues l'Europa Conference League, c'est bien aussi parce que tu es sur la scène européenne et t'as des joueurs qui sont intéressés de jouer la Coupe d'Europe. Alors c'est peut-être une étape pour eux dans leur carrière, mais d'aller jouer, vaut mieux jouer à Nice une C4 qu'à Reims rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues la Coupe d'Europe quand même.
Et puis au-delà de tout ça, moi qui je parle en tant que supporter, ce que je recherche, je paye des abonnements qui coûtent une fortune à la télévision pour aller vivre de l'émotion. Et la Coupe d'Europe, je reviens l'année dernière sur des matchs de barrage, quand on gagne dans les arrêts de jeu, j'ai de l'émotion. Quand on voit ce but à balle de Mofi, j'ai de l'émotion. Cette demi-finale, on a aussi de l'émotion. Donc, ce qu'on cherche finalement, c'est vraiment prendre du plaisir. Alors, moi, je prends, mais il n'y a aucun souci.
Et on retrouvera peut-être Manchester, d'ailleurs.
Ça serait drôle.
En Europa League.
Ça serait drôle de les retrouver
avec ces rumeurs. Alors effectivement, ça, ça fait pas mal causer.
Mais au niveau du
Ineos,
règlement,
pas Ineos. Ah, et règlement, ça faudra s'y pencher parce que comme effectivement Ineos n'est pas propriétaire à 100% de Manchester, il faudrait se éplucher les règlements pour savoir si les deux clubs pourraient se retrouver ou s'il faudrait, comme Redbird, qui était actionnaire majoritaire du Milan AC de Toulouse, avait dû dans les organigrammes un petit peu chambouler tout ça. Faudrait s'y pencher, mais oui, au moment où on voit bien que Ineos met tous ses œufs dans le même panier à Manchester et n'a Dieu que pour les mancuniens, ce serait un petit pied de nez de voir que l'OGC Nice se retrouve au même niveau, voire peut-être dans la compétition européenne du dessus.
Ce qui serait bien, par contre, avec cette collaboration avec Manchester, c'est peut-être récupérer certains joueurs de Manchester qui jouent un petit peu moins, les faire jouer chez nous. Puisque dans le sens inverse, a priori...
Non, mais tu prends qui, voilà. Patou, dans les secondes
c'est ce que tu dire, tu prends Manchester, qui aujourd'hui Si c'est pour faire éclore des joueurs du centre de formation en France, pourquoi pas, mais alors tu deviens la pouponnière d'un grand club, quoi, et du coup tes résultats toi sportifs où tu places l'OGC Nice dans les objectifs sportifs. Si c'est de faire grandir les joueurs du club de Manchester, le projet c'est plus le même, quoi, du tout.
C'est
plus
la tendance, c'est pas une vente, hein, c'est pareil, on entend. Je pense que l'OGC Nice est en train de vivre un petit peu ce qu'a vécu le Lausanne quand il y a 5 ans, quand Ineos est arrivé et a pris Nice. Lausanne est passé au second plan en termes de priorité, mais 5 ans après, Lausanne est toujours dans le giron d'Ineos. Le but d'Ineos, c'est vraiment de se faire un portefeuille de clubs, de sportifs à faire tourner à droite à gauche avec une tête de gondole qui est aujourd'hui Manchester. C'est plus l'OGC Nice, mais a priori, il n'est pas question de vente, en tout cas dans l'immédiat.
En tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'on aura un petit peu d'argent pour le mercato. Je pense qu'Adil, qui est supporter, attend ça.
On va se cotiser, sinon, pas tout.
Ouais.
Un petit billet.
Ouais, y a pas
un petit billet, je le donne.
Mais quel petit billet.
Dans les anciens, il y en a encore quand même qui pourraient peut-être rendre des services.
Il y en a qui ont des beaux restes.
Il y a Jérémy Pierre, Romain Genevoix qui vont faire l'Alliance Run dimanche, pas tout. On s'inscrit, non? C'est une petite course à l'Alliance Riviera.
Il a pas l'air chaud.
Non. Ouais. On y va si tu veux, mais on court pas.
on le fait en relais.
Il fait les barbecue run, Patrice Albergantini.
Ah, c'est fini.
L'Alliance Run, c'est fini. Bon, messieurs, j'étais ravi de vous avoir ce soir encore autour de la table. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau débrief.
Avec un bel invité,
mais
a priori.
Pas de match, ouais.
On va pas en dire trop, mais émission spéciale. Comme il n'y a pas de match, pas de débrief.
On peut dire quand même que ce sera sa toute première interview à la radio. Ce sera chez nous. C'est un joueur du gym. On est ultra fiers de le recevoir. Qui, vous le saurez bientôt, messieurs. À très vite. Ciao.